La délégation pour faire exploser son business, c'est le podcast du jour. Alors on pourrait penser que c'est un titre un peu bullshit, puisque ça fait très penser à des choses marketing, un peu un titre un peu putaclic j'allais dire. Ce n'est pas le cas, du moins à mon humble avis. Pour moi, la délégation, ça va être un des outils que l'on va mettre en place pour pouvoir vraiment se concentrer sur son activité, sur son cœur de métier et engranger du chiffre d'affaires. Bien trop souvent, on dit que pour qu'une entreprise soit rentable, il faut 2 ans. Il y a plein de contre-exemples pour ça et ça passe notamment par la délégation.
Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecrue.com, le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuelle Chegrane et je suis ravie de vous accueillir.
J'ai proposé la semaine dernière un webinaire à des entrepreneurs sur comment déléguer et comment déléguer pour augmenter son chiffre d'affaires. Souvent, lorsque l'on commence une entreprise, lorsque c'est la première fois, mais vraiment la toute première fois, que l'on arrive à créer une entreprise, on ne sait pas par où commencer. On se retrouve un peu submergé par, j'allais dire, un peu tout. On n'est pas du tout formé à faire du commerce. On n'est pas habitué à réseauter. On ne sait pas par où commencer pour créer une offre. On ne sait pas comment trouver ses clients et on se retrouve à être complètement surchargé et à penser que nos journées sont bien organisées et sont bien remplies. Or, je vois trop souvent des personnes qui ne savent pas déléguer à quel moment et qui ont souvent des blocages par rapport au budget, par rapport à l'efficacité, par rapport à un gain de temps et au final qui se retrouvent à faire absolument tout alors qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus avancé sur elle dans des domaines d'activité. Donc ça, je replace, j'allais dire, un peu le contexte de la délégation. Et donc, pour moi, la délégation, c'est un acte qui est primordial si on veut développer rapidement notre activité, puisque ne l'oublions pas, si on est entrepreneur, a priori, c'est pour générer du chiffre d'affaires. Et pour moi, j'allais dire, en 6 mois de création d'activité, on doit avoir réussi à générer un chiffre d'affaires, j'allais dire, au plus tard, au bout de son 6e mois, si on arrive, j'allais dire, à bien se concentrer sur ce que l'on doit faire et ne pas s'éparpiller. Alors, qu'est-ce que la délégation ? Je pense que c'est quand même la base qu'il faut resituer. A priori, si je parle de délégation, tout le monde sait en quoi cela consiste. Si, par exemple, dans votre vie courante, votre chérie va vous demander peut-être de mettre une machine à laver et de plier le linge, alors que c'est peut-être vous qui avez l'habitude de faire ça à la maison. À partir de là, je vais vous donner la définition de ce qu'est la délégation et puis même à partir de ça vous pouvez tout à fait le définir vous-même. Ça va être le fait de faire une tâche ou alors de réaliser une mission par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Le synonyme souvent que l'on utilise c'est externaliser, donc ne soyez pas surpris si vous entendez également ce terme qui est souvent employé. On va confier une délégation à 3 types de personnes de façon générale. Le freelance, l'entreprise prestataire, donc j'appelle entreprise prestataire une entreprise qui va être constituée de quelqu'un à sa tête avec des salariés, voilà, qui va le distinguer un peu du freelance. Ou alors, 3e possibilité, ça va être le salarié, la personne que l'on a recrutée. Il y a également 2 domaines de compétences auxquels on va, j'allais dire, déléguer. Soit c'est un domaine de compétences que l'on va maîtriser, par exemple, un freelance qui est dans la création de sites internet et qui va recruter son premier salarié pour l'aider à créer des sites internet à sa place, ou j'allais dire pour lui apporter une aide dans la mesure où il va peut-être être en explosion de son activité, en très forte croissance. Le 2e domaine, ça va être le domaine de compétences que l'on ne maîtrise pas, mais qui va être essentiel à la vie de l'entreprise. La comptabilité, l'administration, le commercial, ça typiquement, c'est le type de choses qui, a priori, en fonction de où on vient en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas forcément comment faire. Lorsque l'on veut déléguer pour la première fois, généralement, on est confronté à deux types de cas. Bah, soit on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer, et dans ces conditions, on est complètement bloqué et on va vouloir tout faire. Soit la deuxième possibilité, c'est qu'on va avoir énormément d'appréhension à déléguer parce qu'on est dans le contrôle et on va se poser plusieurs questions. La question sur l'efficacité, est-ce que si je confie à cette personne, ça va être vraiment fait de façon propre, intéressante? Est-ce que la qualité va être au niveau de ce que j'attends? Est-ce que je ne vais pas retrouver dépendant de cette personne si un jour elle part? Et ensuite, la troisième chose qui revient souvent, c'est la question du budget. J'aimerais bien déléguer, je sais que ça va m'aider à faire décoller mon entreprise, mais ça coûte trop cher. Donc ça, c'est des problématiques qui sont exacerbées, surtout si vous êtes en phase de création d'entreprise, de développement de votre activité, et que j'allais dire, vous êtes dans votre première année d'activité, on ne sait pas trop forcément par où commencer. Alors, pourquoi la délégation peut vous aider à faire décoller votre business? La délégation, à mon sens, ça va être un super outil si on sait l'utiliser. Alors, pourquoi déléguer? Il va y avoir trois raisons principales. Soit vous n'avez pas le temps, soit il va y avoir quelqu'un qui va savoir mieux faire que vous une tâche. Et la troisième chose, c'est qu'a priori, une fois que vous allez gagner du temps et que la personne va savoir mieux faire que vous, vous allez pouvoir reconcentrer votre énergie et votre force et votre domaine de compétences sur des tâches qui sont importantes. J'insiste bien sur ce mot « important ». Lorsque vous allez avoir un gain d'énergie, et de temps, j'allais dire, c'est vraiment la base. Donc, premier point que je vais développer. On va partir d'un constat simple, on a tous 24 heures dans une journée, grosso modo, on travaille 7 heures par jour sur une base de 35 heures. Question que je vais vous poser et auquel je vous invite à réfléchir 3 secondes. Comment vont faire les personnes qui ont un poste à responsabilité pour réussir à faire tout ce qu'elles doivent faire? Imaginez quelqu'un qui va peut-être gérer 10 salariés, qui a une vie de famille, qui est très actif sportivement. Comment cette personne fait pour gérer l'intégralité de ses activités? Simple, elle va déléguer. Ça, c'est vraiment la clé. Je vais d'ailleurs vous partager une citation de Bouddha que j'aime beaucoup, qui dit que l'erreur que nous pouvons faire dans la vie est de penser que nous avons du temps. Voilà. Ça, c'est la citation de Bouddha. Et en fait, le temps, une fois qu'il est passé, il est perdu à jamais et on ne peut pas le racheter. D'ailleurs, il est plus facile d'avoir de l'argent que du temps. Et l'un dans l'autre, la délégation va nous faire gagner du temps. Le deuxième point, c'est que lorsque l'on délègue, on va faire des choses par quelqu'un qui, a priori, soit va maîtriser de la même façon que nous, soit va maîtriser plus grandement en fait. Ça peut être la comptabilité, le commercial, etc. A priori, on n'a pas de domaine de compétences dans ça. Donc, la personne à qui on va déléguer va avoir au minimum ce domaine de compétences ou mieux, va être un expert dans ce domaine. Et j'en viens au fait que du coup, on va se concentrer sur des tâches qui vont avoir de l'importance. Donc, on va pouvoir déléguer des tâches qui doivent être faites, mais qui ne nous rapportent pas d'argent et qui ne sont pas notre corps de métier. A priori, on n'a pas des compétences là-dedans. La question que l'on va se poser très souvent, c'est comment est-ce qu'on va économiser de l'argent? L'objectif de la délégation, c'est comment gagner un maximum. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous n'allez pas faire des économies. Et ça va être, j'allais dire, un peu contre-intuitif. Vous n'allez pas faire des économies puisque vous allez peut-être dépenser pour quelqu'un. Mais dans un deuxième temps, vous allez récupérer votre investissement. Et si je prends, j'allais dire, un exemple basique. Si vous avez une société, vous n'y connaissez absolument rien, la comptabilité, je peux vous assurer, et en connaissance de cause, je parle puisque j'ai été comptable, vous allez vous casser la tête sur la comptabilité, vous allez passer des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de comprendre comment ça marche, à essayer de trouver un logiciel, à essayer de passer vos écritures, à appeler un ami parce que vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, à classer vos documents. Au final, vous aurez fait, pardon de vous le dire, deux je vais dire un mauvais mot, vous aurez fait n'importe quoi, vous aurez dépensé votre temps inutilement. Donc l'objectif aussi de la délégation, ça va être de se reconcentrer sur son activité, sur son cœur de métier, de se concentrer sur le marketing, sur la vente et son cœur de métier. Pour moi, si je résume ce qu'est la délégation et à quoi ça va me servir, pourquoi je parle vraiment autant de délégation, c'est que ça va nous faire gagner de l'argent. Car on va dégager du temps en se reconcentrant sur notre activité, sur notre cœur de métier et sur, concrètement, la question qu'on va se poser, c'est, ok, comment je fais pour générer du chiffre d'affaires? Quelles sont les tâches que moi, personnellement, je dois faire? Et moi, personnellement, quelles sont les tâches qui vont apporter de la valeur? Ça induit également la notion de enlever le costume de super-héros et arrêter de penser que on doit tout faire, que l'on est le meilleur à tout faire. Et j'allais dire, l'art de déléguer, c'est quelque chose qui prend du temps, qui s'apprend. Ça nécessite aussi de faire confiance en l'intelligence humaine. Donc là, j'ai posé, j'allais dire, les bases de qu'est-ce que la délégation et pourquoi je dois déléguer. La première étape, à mon sens, avant de déléguer, ça va être de s'analyser soi-même, d'analyser son entreprise. Et pour cela, il faut se poser des bonnes questions. Je vous invite à lister les questions, à les lister, à les écrire, j'allais dire même par papier, et à y répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à mettre en pause, j'allais dire, le podcast pour prendre en note et puis faire ce petit travail sur vous-même. Quatre questions que je vous propose aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais faire et quelle est la valeur unique que j'apporte dans mon activité? A priori, si aujourd'hui vous avez créé une activité, c'est que vous avez un domaine de compétence dans quelque chose. Donc listez ça bien en détail. Deuxième question, qu'est-ce que je dois faire pour que mon entreprise soit pérenne? Donc là, vous allez vraiment lister toutes les tâches, toutes les actions qui doivent être faites pour que votre entreprise soit pérenne. Je vais vous citer juste quelques exemples brièvement qu'il faudra que vous étoffiez. Ça va être par exemple l'administration, les ventes, la comptabilité, les réseaux sociaux si vous l'utilisez, les réseaux sociaux. Troisième question, de quoi ai-je besoin pour faire accroître mon entreprise? Donc ça va être un peu différent de la question précédente puisqu'en fait c'est pour vraiment faire accroître les choses. J'allais dire c'est une vision plus à long terme. Concrètement, quelles sont les stratégies que je vais pouvoir mettre en place et donc du coup, quelles sont les choses qu'éventuellement je vais pouvoir déléguer. Pour faire croître mon entreprise, j'en ai un exemple, j'allais dire, du béaba, l'utilisation des réseaux sociaux en mettant en place par exemple une campagne de publicité sur Facebook. Ça va vous aider à engranger des prospects et éventuellement à les convertir en clients et donc intrinsèquement à faire accroître votre entreprise. Quatrième question, qu'est-ce que je ne veux plus faire? Vous êtes devenu entrepreneur, vous n'êtes plus salarié. Il faut que vous donc posiez donc les questions de qu'est-ce que vous ne voulez plus faire parce que peut-être vous n'aimez pas, ça vous gonfle. Voilà, ça c'est important. Il faut savoir également que lorsque vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez prendre plus de temps. Vous n'êtes plus salarié, vous n'êtes pas obligé de travailler et de fonctionner comme un salarié. Vous avez la possibilité aujourd'hui de déléguer. Donc notez bien ces questions, répondez-y. Ça va être la première étape justement pour réfléchir à qu'est-ce que vous allez déléguer dans votre entreprise et qu'est-ce que vous allez faire, par vous-même. Super important de se poser ces quatre premières questions. La deuxième chose qui revient souvent, c'est est-ce que je dois choisir un prestataire? Est-ce que je dois choisir un salarié? Et puis également, comment choisir éventuellement mon prestataire ou mon salarié? Cette question, j'allais dire, on se la pose tous, on se l'est toutes posée. Et moi également, je me la pose et je me la suis posée puisque je cherche des prestataires, grandement dans plusieurs domaines d'activité. La réponse, en fait, elle va dépendre de où vous en êtes dans votre activité, dans votre entreprise et qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi faire. Si vous êtes en phase de création d'entreprise, je vous conseille, et puis même en phase de développement d'ailleurs, je vous conseille d'être prudent, et de choisir quelqu'un qui va être prestataire pour vous, freelance, hein, peu importe. Pourquoi? Parce que vous allez concrètement avoir plus de flexibilité. Vous aurez la possibilité de prendre un freelance quelques fois par semaine ou simplement pour une mission ou alors complètement pour un mois entier. Ça va dépendre également de votre budget. Donc, premier avantage, la flexibilité. Deuxième avantage, de faire réaliser une prestation, notamment par un freelance, j'insiste bien sur le mot freelance, c'est que la prestation sera moins chère. Deux raisons pour cela. Lorsque vous avez un salarié, a priori, peut-être que vous ne savez pas, mais le salariat en France coûte excessivement cher. Concrètement, pour vous situer un peu la chose, vous prenez le salaire net d'un salarié, vous le chargez à 75%, donc vous multipliez son salaire net multiplié par 1,75, ça vous donne combien coûte un salarié concrètement à une entreprise entre les charges patronales et les charges salariales. Si vous êtes, vous choisissez un prestataire qui est freelance, généralement cette personne va être en micro-entreprise, donc pas de TVA, un régime de charges qui va être complètement allégé puisque cette personne paiera uniquement, je crois, de l'ordre de 25% de charges, donc c'est rien du tout. Alors que si vous faites, vous avez besoin d'un prestataire, j'allais dire, avec des salariés, etc., il va être dans une autre démarche, donc entreprise classique avec des charges, de la TVA, etc., peut-être un local. Et donc, intrinsèquement, les charges vont augmenter. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, dans un premier temps, de travailler avec un freelance, qui généralement va être en micro-entreprise, dont les prestations vont être beaucoup plus accessibles et en plus vous aurez de la flexibilité. Sur la question, j'allais dire, de comment choisir son prestataire, je vais y revenir un peu plus loin dans le podcast, donc vous aurez l'occasion d'avoir plus d'explications à ce sujet. Ensuite, je voulais vous parler des domaines sur lesquels il faut absolument déléguer. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs essayer de faire leur comptabilité, se poser des questions qui n'ont pas lieu, anticiper des choses à déléguer. J'allais dire, première chose, organisez-vous également. C'est pour ça justement qu'au préalable, je vous ai fait répondre à des questions pour que vous vous recentriez sur les priorités. Et sur les choses à déléguer, pour moi, il y en a quatre. Encore une fois, ça va dépendre de vos activités. Première chose, la comptabilité. La comptabilité, ça prend trop de temps. Les erreurs sont faciles, les connaissances sont difficiles à acquérir. Si vous êtes en plus en micro-entreprise, vous avez des régimes qui sont complètement allégés puisque pas de bilan à faire, juste des factures, etc. Donc, c'est très, très simple et allégé. Deuxième point pour moi qui a délégué, c'est tout ce qui va dépasser vos compétences techniques. Et donc là, typiquement, ça peut être par exemple l'informatique. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'informatique, si vous avez des besoins dont vous n'avez pas les connaissances, ce n'est pas la peine de chercher, trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Troisième point à déléguer pour moi, c'est le support client. Qui est très chronophage, qui n'apporte pas, j'allais dire, de valeur ajoutée et qui doivent être faits par des personnes qui ont, j'allais dire, un savoir-être particulier. Quatrième point, la gestion des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui éventuellement peut être stratégique, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez pouvoir apporter de la valeur ajoutée, bien que vous sachiez le faire. Quatre points. Donc je vous laisse, j'allais dire, à votre réflexion à ce niveau-là sur si vous voyez, vous, à votre échelle, d'autres domaines que vous pourriez déléguer. Les outils pour déléguer, ça c'est hyper important, souvent, on ne sait pas à qui déléguer. On ne sait pas où trouver ces prestataires, ces freelances qui vont nous aider dans notre activité. Alors, pour moi, il y a des outils Internet. Alors ça, c'est super. Je suis une grande fan d'Internet qui, pour moi, a révolutionné beaucoup de choses et on peut trouver une multitude de personnes qualifiées sur Internet. Ça nécessite bien entendu de pouvoir voir les travaux des personnes à qui vous avez délégué et d'avoir des avis. Ça va, j'allais dire, un peu vous détacher du fait que vous ne connaissiez pas la personne et que vous ne savez pas ce qu'elle vaut, puisqu'en réalité, vous allez pouvoir voir son travail. Première plateforme que je vais vous conseiller, c'est Fiverr, F-I-V-E-2-R. C'est une plateforme où vous pouvez trouver des freelances à la tâche pour 5 euros. Ça vous permet par exemple de faire un jingle, ça va vous permettre de créer un logo, ça va vous permettre quoi d'autre. Là, j'ai pas spécialement d'idées, mais je vous laisse jeter un petit coup d'œil. C'est assez bien fait. Si par exemple vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été fourni par votre prestataire, vous pouvez très bien payer encore 5 euros pour trouver un autre prestataire et j'allais dire à la limite mettre un budget de 50 euros sur Fiverr, ça va vous faire 10 graphiques de logo par exemple et vous aurez, j'espère pour vous quand même que vous trouveriez le logo qui vous plaît le plus. 50 euros pour un logo, c'est pas grand chose et à tous les coups vous perdrez moins de temps que le faire vous-même et bien entendu ce sera peut-être mieux fait aussi. Deuxième plateforme, Upwork, U-P-W-O-R-K, Upwork. Vous avez beaucoup de prestataires anglophones dessus. Si vous voulez faire une recherche pour trouver des prestataires français, vous tapez French dans la barre de recherche et vous trouverez vos prestataires. Là, c'est des prestataires, j'allais dire, multiples. Ça peut être pour de la comptabilité, ça peut être pour du secrétariat, pour du marketing, enfin, tout est absolument trouvable sur Upwork, de la retranscription, des rédacteurs web, enfin tous les travaux, j'allais dire, de bureau qui sont facilement faits à distance, vous les trouvez sur Upwork. Troisième site, si vous avez besoin en site web, logo, site web, création de site web, identité visuelle, logo graphique. Vous avez un site qui est plutôt sympa, qui s'appelle 99 Designs, donc 99DESIGNS, qui en réalité vous permet d'avoir recours à plusieurs graphistes, puisqu'en réalité ça fonctionne sous forme de concours. Donc il y a, vous postez votre annonce avec ce que vous voulez, c'est assez interactif en fait. Il y a une estimation d'abord de quel style vous aimez, ils vous font choisir plusieurs logos, etc. Enfin, il y a un questionnaire à remplir avant pour qu'on comprenne bien ce que vous avez, de quoi vous avez envie. Et ensuite, vous lancez, j'allais dire, une forme de concours où vous allez avoir un certain nombre de graphistes qui vont travailler sur votre projet. À la fin, vous choisissez le prestataire qui vous a plu et c'est à lui que vous paierez la somme. Donc là, je vous en cite que trois. Très rapidement, il y en a d'autres. Il y a Malte, Humaniance, Online Jobs et Codeur. Je vous laisserai chercher pour savoir à quoi ça ressemble et si éventuellement vous en avez besoin. Ensuite, une fois que j'ai parlé des outils, qu'on peut trouver sur Internet, pour moi, la deuxième chose que vous pouvez faire c'est en utilisant votre réseau professionnel et en essayant de le constituer au fur et à mesure. Réseau professionnel assez intéressant pour trouver des gens qui puissent nous aider dans le domaine de compétences très particulier. Moi là concrètement, j'ai rencontré quelqu'un qui propose des aides pour créer une formation en ligne. Donc en un mois, la formation en ligne est créée avec l'aide de cette personne. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Et ça, j'ai trouvé par le biais, en réseautant, tout simplement. Donc je trouve ça super, super intéressant. Troisième possibilité, qui reste très scolaire, mais qui a encore fait ses preuves, c'est poster des annonces. Poster des annonces, notamment sur les plateformes que je vous ai citées précédemment, donc Fiverr, Upwork, Malt, etc. Ça fonctionne aussi plutôt bien, mais sachez que ça prendra beaucoup plus de temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour trouver des prestataires, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est j'ai délégué ça à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai cherché une assistante en lui donnant ce que j'avais besoin et en lui donnant des directives. pour qu'elle sélectionne un prestataire qui réponde à mes besoins. Donc ça va vous permettre aussi, j'allais dire, de déléguer en déléguant et de vous concentrer à ne pas chercher tous les prestataires vous-même, puisque ça va vous prendre un temps fou et vous n'allez pas créer de la valeur. Troisième possibilité, non, j'ai tout dit d'ailleurs sur les outils pour déléguer ou sur du moins sur comment trouver ses prestataires. En revanche, il y a des outils également que vous allez pouvoir utiliser puisque a priori les prestataires freelance avec lesquels vous allez rentrer en contact seront à distance. Donc pour moi, primordial de mettre en place des outils qu'on appelle du task management. Donc Trello, Slack, Evernote. Voilà, donc pareil, je vous laisserai faire vos petites recherches pour savoir ce qui éventuellement pourrait vous correspondre et ce qui pourrait être utilisé par vous dans le cadre de votre entreprise. J'en viens à un point qui revient très 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 fréquemment, surtout lorsque l'on n'a pas de budget, lorsque l'on démarre son entreprise et lorsque soi-même on n'arrive pas à se payer. Souvent, on me dit, mais j'ai pas de budget pour déléguer, donc je préfère faire moi-même. Grave erreur. Premièrement, parce que c'est en essayant de faire tout soi-même que l'on ne fait rien. Et deuxièmement, ce point de vue sur le budget, je ne le partage pas. Il faut déjà arrêter de voir tout comme un coût à chaque fois. Moi, j'ai changé un peu ma mentalité par rapport à ça et j'essaye de voir l'investissement qu'il y a derrière et de raisonner sous forme d'investissement. C'est-à-dire que si je vais dépenser de l'argent quelque part, a priori, c'est que ça va me rapporter quelque chose. Sinon, je ne le fais pas. Sinon, du coup, c'est vraiment un coût, c'est vraiment une dépense, j'allais dire presque inutile. Ouais, premier point, changer son mindset et commencer à faire évoluer les choses pour soi. Deuxième point, j'ai envie de dire, mais regardez le téléphone que vous avez. Si, a priori, c'est un iPhone, bah, dans ces conditions, peut-être que vous avez de l'argent, mais que vos priorités sont ailleurs. Donc, éventuellement, bah, j'allais dire revoir ses priorités pour concentrer l'argent que l'on a déjà dans des choses qui nous tiennent à cœur. Et a priori, son entreprise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Si après qu'on ait fait tout ça, on a encore, là on a vraiment vraiment un vrai besoin d'argent, c'est possible, hein, ça existe en fonction de votre projet. Dans ces conditions, vous pouvez faire un crédit. Attention, je ne parle pas de crédit auprès d'établissements bancaires, puisque souvent les taux d'intérêt sont assez importants. Je sais que dans ma ville, puisque je suis basée à Bordeaux, il y a la Caisse sociale de développement local, de Bordeaux, qui propose des prêts jusqu'à 12 000 euros et dont le taux d'intérêt y compris entre 0 et 5%. Donc là, il suffit juste de faire une petite recherche internet sur des types d'organismes comme ça qui existent dans vos régions. C'est très facile. Pareil, si vous êtes en création d'entreprise, il y a ADIE, ADIE qui propose également un accompagnement et un financement. Donc ça peut être intéressant de se poser ce genre de questions si vous avez vraiment un vrai besoin d'argent. On en vient au fait de quel moyen, qu'est-ce que je peux utiliser si j'ai peu de budget, j'allais dire comme nous tous. On peut faire un partenariat, c'est-à-dire grâce à son réseau, on va rencontrer des gens pour lesquels éventuellement on va proposer notre prestation, c'est-à-dire notre cœur de métier. Et en échange, lui va nous proposer sa prestation. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, vous avez besoin d'un graphiste, vous allez très bien pouvoir lui demander de travailler gratuitement sur votre projet, de chiffrer combien également ça va coûter pour savoir le type de prestation que vous allez lui rendre en retour à équivalence quoi. Ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui fonctionne bien mais qui peut prendre du temps. Donc si vous êtes vraiment pressé, je ne vous conseille pas d'utiliser cette méthode. C'est une fois, j'allais dire, que votre réseau est constitué et que vous voulez, j'allais dire, économiser un truc grosse guillemets. Deuxième chose, c'est les plateformes que j'ai évoquées précédemment qui vont vous permettre de déléguer également à l'étranger. C'est pour ça souvent que les coûts sont plus faibles. Vous pouvez avoir des assistants virtuels par exemple dans les pays maghrébins pour 3 euros de l'heure. 3 euros de l'heure, c'est beaucoup plus d'ailleurs, il me semble que leur taux horaire minimum. Enfin, moi, je ne passe pas du tout par ce type de plateforme d'ailleurs pour mes assistants. Mes assistants sont basés en France, soit dit en passant. Mais peu importe, ça va vraiment dépendre de votre budget, de ce que vous avez envie de faire et de comment vous avez envie de le faire. ça vaut de réfléchir sur ça. Troisième possibilité, c'est les stages. Ça, on ne pense pas souvent. Aux stagiaires, alors je parle, attention, des stagiaires conventionnés, et pour ça il faut que vous soyez vraiment en société, que vous ayez une entreprise. Je ne parle pas si vous êtes vraiment en phase de création de votre entreprise, que vous n'avez même pas de micro-entreprise, c'est pas la peine d'y penser. Votre stagiaire, donc c'est, je vais vous en parler un peu brièvement. Donc les stagiaires de moins de 2 mois en France, il n'y a pas d'obligation de rémunérer, mais quand même je vous conseille de rémunérer votre stagiaire, puisque l'idée là ça ne va pas être de l'exploiter, mais ça va être de le motiver et de lui apporter quelque chose en retour. C'est un peu le principe du stage. Le stage, c'est une convention qu'on fait passer entre le stagiaire, l'entreprise et l'établissement d'accueil du stagiaire. Si vous souhaitez prendre un stagiaire sur une durée de plus de 2 mois consécutives, dans ces conditions, il faudra les rémunérer. Le taux de rémunération, c'est 3,75 € de l'heure. Voilà, si vous prenez votre stagiaire 35 heures par semaine, c'est 3,75 € fois 35 pour la semaine. Autre point également, c'est que vous versez une indemnité de stage, donc pas besoin de faire de bulletin de paye si vous respectez, si vous ne le rémunérez pas au-dessus de la réglementation légal, mais je pense que je ferai un autre podcast pour vous parler un peu plus en détail des stagiaires, du fonctionnement, des obligations, etc. Si je délègue dans le même domaine d'activité que j'ai que la qualité est inférieure à la mienne, eh bien, souvent on a un peu peur de ça. Et c'est souvent ce qui revient, j'allais dire, fréquemment après le budget, c'est-à-dire, je vais peut-être délégué dans un domaine de compétences que je connais ou pas, mais en fait j'ai peur que la qualité ne soit pas bonne, et dans ces conditions, comment est-ce que je vais faire? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque l'on délègue, il y a souvent plusieurs points, j'allais dire, qui vont un peu nous rebuter. On n'a pas confiance dans les prestataires. Ça, c'est un fait, on n'a pas confiance, mais souvent parce qu'on ne les connaît pas. Ensuite, on peut également avoir un problème pour déléguer. Ça, c'est assez fréquent pour les entrepreneurs qui ont besoin de tout contrôler. Très, très fréquent. Troisième point, ça va être un problème de lâcher prise. Enfin, je dis des bêtises. On reprend. Manque de confiance dans les prestataires parce qu'on ne les connaît pas. Ensuite, on peut ne pas avoir de technique pour déléguer. Et ensuite, on peut avoir un problème personnel à lâcher prise. Et donc là, j'en viens au fait que c'est très fréquent pour les entrepreneurs qui ont besoin de contrôle. Excusez-moi, je suis en train de lire mes notes en même temps, j'ai perdu le fil. Je reviens sur ce manque de confiance des prestataires. C'est normal. Il faut arrêter de dramatiser, c'est normal que vous n'ayez pas confiance en vos prestataires, surtout que c'est la phase où on va apprendre à se connaître. A priori, vous ne les connaissez pas, ils n'ont pas été recommandés, et on a besoin de connaître les forces et les faiblesses de chacun, savoir comment on fonctionne, etc. C'est un peu la même chose qu'une relation de couple, en fait. On va apprendre à se connaître et on va se faire confiance petit à petit. Pour, j'allais dire, essayer de limiter ce manque de confiance et se sentir bien vraiment dans la relation de délégation, je vais vous proposer les 4 niveaux de délégation qu'il faut utiliser. Donc il y en a 4, pareil, écrivez-les parce que c'est super important. Souvent, c'est pas trop par où commencer, souvent, lorsque l'on veut déléguer, parce qu'on n'a pas en tête ces 4 niveaux de délégation et on donne des objectifs qui sont très flous. Premier niveau de délégation, on va demander à notre prestataire de suggérer des solutions et on tranchera. Ça, c'est vraiment le premier niveau, la base. Deuxième niveau, lorsqu'on la personne est montée un peu en compétence et qu'on a pu évaluer son niveau, on va lui dire, eh ben, fais et tu vas me tenir au courant de l'avancée. Troisième niveau de délégation, on va lui dire fais et donc à la fin, je vais valider ton travail. Quatrième niveau, fais et archive. Dans ces conditions, je ne contrôle absolument rien. Ces 4 niveaux-là de délégation, il faut vraiment les avoir, j'allais dire, en tête pour que l'on puisse savoir ce que l'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire. Le point suivant que je voudrais aborder, que j'ai cité précédemment, c'est on n'a pas de technique de délégation et dans ces conditions, on ne sait pas du tout par où commencer. Première étape, on va définir ses besoins à l'aide des toutes premières questions que je vous ai dit, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, quelle est ma vision pour le futur, etc. Ensuite, on va trouver des prestataires. Et ensuite, on va déléguer en suivant l'étape de niveau de délégation. Donc, on va commencer par l'étape 1, on va lui demander de suggérer des solutions et on va trancher. Et une fois qu'on va estimer que la personne est arrivée à un niveau de compétence suffisant, on va lui dire, OK, donc maintenant tu vas faire et tu vas me tenir au courant de l'avancée. Et une fois que cette personne a complètement assimilé tout ce qu'on lui a demandé de faire sur la même tâche, hein, attention, j'insiste bien, c'est-à-dire qu'on va lui demander par exemple de classer les documents. Bon, c'est pas mon exemple, n'est pas très pertinent. On va lui dire par exemple de me trouver un billet d'avion. Je dis, ça, c'est pour le cas d'un assistant personnel. Donc, tu vas me suggérer des solutions sur les personnes, sur les sites web sur lesquels il faut aller. Et puis, je trancherai. Voilà. Et ou alors, l'étape suivante, une fois qu'on a bien compris que la personne a ciblé nos besoins, etc., on va lui dire. Tu vas chercher sur les sites, tu vas trouver un horaire qui me convient en fonction de ce que je te donne. Et puis, tu vas me tenir au courant, je te laisse 2 heures pour faire ça, et puis tu me tiens au courant de ce que tu as trouvé, de l'avancée, etc. Voilà, bon, c'est des exemples que j'ai donnés là, ils ne sont pas très pertinents, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'idée de la chose. Et le troisième problème auquel on peut être confronté, c'est le problème de lâcher prise. Dans ces conditions-là, je vais vous donner des brefs conseils. Arrêtez d'avoir le melon, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Pour vous donner un peu plus d'auteur par rapport à ça, dites-vous que si vous êtes le plus intelligent de la pièce, c'est que vous vous êtes trompé de pièce. Souvent, ça marche très très bien, ça. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux faire que nous, même dans notre domaine de compétences. Il y a toujours quelqu'un qui sera capable de nous dépasser. L'idée, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Pardon. D'être épanoui dans ce qu'on fait. Et dans ces conditions, il faut arriver à avoir lâché prise et ça prend des fois un peu de temps. Souvent, le troisième point, la troisième chose sur lesquelles les freelances sont un peu dépassés, c'est que. Enfin, les. Pardon. Souvent. On arrive également à un point qui va être si mon freelance ou mon salarié n'est pas efficace, il va me faire perdre de l'argent et du temps. Dans ces conditions, je préfère faire les choses par moi-même. Alors oui, c'est un fait, hein, on va perdre peut-être du temps et peut-être de l'argent, hein, c'est un fait. On perd le contrôle. On perd le contrôle à partir du moment où on va déléguer, et ça, c'est un travail psychologique que l'on a à faire. Sur nous-mêmes, la perte de contrôle, elle va être inévitable et il va falloir lâcher prise. Quelquefois, même la tâche ne sera pas bien réalisée et ce n'est pas grave. La délégation, ça va être le seul moyen de croître. Est-ce que vous avez déjà vu une entreprise qui a grandi seule? C'est pas possible. Il faut s'entourer et s'entourer de personnes à qui on peut déléguer, à qui on peut faire confiance. C'est la base. J'allais dire, même si vous êtes en phase de création d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite. Parce que le moment où votre entreprise aura grandi beaucoup trop vite par rapport à ce que vous avez anticipé ou beaucoup trop vite par rapport à vous, à votre état psychologique sur la délégation, ce sera trop tard et c'est à partir de ce moment-là que vous ferez des bêtises. Donc, entamez ce processus de délégation petit à petit, même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, souvent. On en a besoin. Moi, je suis en phase de lancement de mon activité et j'en ai besoin en fait. J'ai fait la liste de ce que j'avais besoin de faire, de là où je voulais aller, de ce que je fais de la journée, de la valeur ajoutée que j'apporte. Et en fait, j'ai besoin de déléguer pour me redonner du temps et me recibler sur ce qu'il y a vraiment besoin de faire et sur la valeur ajoutée que j'apporte. Première étape, pour un bon transfert, à mon sens, il y en a quatre. Hein. Il y a quatre étapes. Première étape, donc, il est très important d'informer le prestataire ou le salarié du niveau de délégation attendu. Voilà. Nous ne sommes pas dans votre tête. Je ne suis pas dans votre tête. Donc, je ne peux pas savoir, si vous me donnez une tâche, quel est le pouvoir que vous me donnez et qu'est-ce que, et si alors vous souhaitez que vous, si vous souhaitez être informé de la tâche, si je dois faire la tâche de façon intégrale et si vous souhaitez trancher, etc. Donc première étape, c'est le niveau de délégation. Donc les niveaux de délégation, c'est ce que j'ai dit précédemment. Je répète, sur soit la personne suggère une solution, soit la personne fait et elle tient au courant, soit la personne fait et je valide à la fin, soit la personne fait et j'archive et je contrôle absolument rien. Deuxième étape, il ne faut plus penser de façon artisanale, il faut absolument réfléchir à un process, à une procédure. Pour ça, créez des procédures ou alors du moins, faites faire la procédure à votre prestataire ou à votre salarié une fois qu'il aura bien compris la tâche. Il ne faut pas oublier que l'homme a créé quelque chose de fabuleux il y a 5000 ans, c'est l'écriture. L'écriture, ça va vous permettre plusieurs avantages, ça va vous permettre de contrôler la personne. Soit la personne a fait une erreur et dans ces conditions, peut-être qu'il y a une erreur dans la procédure et c'est la procédure qu'il faudra modifier. Soit la personne n'a pas suivi la procédure et dans ces conditions, si ça se réitère plusieurs fois alors que tout est bien explicité, j'allais dire en détail, ben c'est peut-être la personne qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à votre entreprise, à votre façon de travailler. Donc mettre en place des procédures, ça va être, j'allais dire, très intéressant. Vous pouvez également, si vous voulez pas écrire absolument, 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 c'est de filmer votre ordinateur, votre PC, si vous avez, si ce que vous montrez par exemple c'est sur votre écran. Donc pour ça vous avez Camtasia. Et si vous filmez par exemple un entretien ou vous parlez devant, vous avez un événement, etc., et que ça fait partie de votre procédure, vous pouvez très bien utiliser votre smartphone, mettre l'ensemble de la procédure écrite et de la procédure audio-vidéo dans Dropbox, dans le Drive, dans Trello, Evernote, peu importe, et partager ça à la personne. Et bien entendu, nommer quelqu'un qui va être responsable de modifier la procédure pour qu'elle soit à jour, sinon une procédure non à jour n'est pas du tout exploitable et utilisable. Troisième étape, c'est... pour moi, déléguer, c'est un investissement. Donc, en fait, il faut que vous allez, il faut accepter les erreurs au début. Il faut du temps. Tout ce que, a priori, vous faites aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui le fait mieux que vous. Et donc, la délégation, ça prend du temps. C'est vraiment un investissement, mais un investissement qui vous fera gagner du temps. Quatrième étape, ça va être de contrôler ce que la personne a fait, contrôler si elle est bien aux personnes. Opérationnelle pour la faire monter en compétence, pour lui donner un niveau de délégation supérieur, pour lui confier plus de tâches. En résumé, et ça va un peu conclure ce podcast qui je pense est trop long, mais j'espère qu'il vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, ça va être de résumer une méthode de façon concrète pour que vous puissiez appliquer ça dès aujourd'hui dans votre quotidien. Donc ma méthode, c'est la suivante. Première étape, vous allez définir vos besoins. Donc les besoins qu'on a dit tout en haut, vous savez, quand je vous ai dit de noter sur un papier, la première chose à faire avant de déléguer. Voilà. Donc ça, ça va vous permettre de définir vos tâches à déléguer. Ensuite, vous allez trouver un assistant, deuxième étape. Et votre assistant, très honnête, pour moi, en moins de deux semaines, maximum 3 semaines, vous devez avoir la personne avec laquelle vous allez travailler. Vous allez utiliser donc les plateformes que je vous ai citées précédemment, ou trouver des prestataires via votre réseau, via votre les stages également. Donc ça doit être fait de façon, j'allais dire, très très rapide. Trouver votre assistant également, pour moi ça va passer par trouver un assistant personnel, un assistant administratif qui va vous aider dans toutes les tâches qui vont être peut-être un peu rébarbatives. Je prends un exemple, pour moi par exemple j'écris des articles, ça va être de déléguer toute la partie recherche. Donc de déléguer toute la partie recherche, j'ai une thématique, j'ai besoin de faire des recherches, très chronophage des recherches, ça prend du temps, ça n'apporte pas spécialement de valeur ajoutée. Donc je demandais à mon assistant de faire cette tâche de préparation de mon travail. Voilà, ça peut être par exemple quelque chose à faire. Même si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'assistant, mettez-vous en relation avec des personnes qui potentiellement après vont pouvoir vous aider lorsque vous en allez avoir besoin et commencez petit à petit, peut-être une heure, tester cette personne sur une heure, peu importe, pour savoir si éventuellement vous avez besoin de cette personne. Si vraiment vous n'êtes pas convaincu que vous n'avez pas besoin d'assistant, faites cette méthode. Vous vous rendrez compte en fait que vous avez besoin d'assistant. Troisième étape, ça va être d'organiser votre travail et de transmettre votre savoir. Transmettre votre savoir via des process et du coup organiser votre savoir en mettant ça en forme. Evernote, Trello, Slack, ce qu'on a parlé aussi précédemment. Quatrième étape, c'est ne pas déléguer trop vite. Déléguer par étapes. Utilisez les niveaux de délégation que je vous ai cités précédemment, ça c'est très important. Donnez des petites tâches. Faites un test sur un mois. Prolongez ce test sur 3 mois. Augmentez la rémunération petit à petit. Être vraiment très clair, très précis sur la tâche. Précisez le budget, le résultat attendu. Ça va vous permettre d'éviter de faire de nombreuses erreurs. Pour moi également, il va y avoir également, je regarde beaucoup également là, donner des responsabilités et passer le pouvoir une fois que vous allez avoir confiance dans cette personne. Et la cinquième étape, ça va être de contrôler la productivité ou le travail. Je vous le dis juste entre parenthèses, il existe des outils de contrôle de la productivité qui va vous permettre en fait de voir l'écran, de voir ce qui se passe sur l'écran, de voir si la personne vraiment travaille et est productive. J'aime pas du tout ce type d'outil qui pour moi va instaurer un climat de méfiance, une perte de motivation, un flicage. Et puis je me dis en fait, moi j'aimerais pas du tout qu'on fasse ça, donc pourquoi je le ferais à quelqu'un? Donc je n'aime pas du tout. Moi je préfère contrôler ce qui a été fait pour vérifier que ça correspond bien à ma demande. Proposer des axes d'amélioration pour que la prochaine fois le travail soit peut-être plus exécuté, exécuté plus vite, mieux exécuté, etc. Et que ça réponde vraiment à mes problématiques. Et ça induit du coup que je fasse un travail sur moi-même. Voilà, que je repose pas, je reporte pas la faute sur la personne, mais que je fasse un travail sur moi-même. Est-ce que j'ai bien communiqué l'information? Voilà, une introspection personnelle. On arrive à la fin de ce podcast, j'espère ne pas vous avoir perdu, j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la page Facebook, je vais remettre un peu ça pour vous donner un contenu riche en informations ludiques, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Ma Future Recrue et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, merci.
Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Rendez-vous donc jeudi. En attendant, pensez à vous abonner à la page Facebook Ma Future Recrue. À bientôt !